Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. La prime inflation de 100 euros. Le gouvernement ressort le grand chéquier de l'État et fait un chèque de près de 4 milliards d'euros. Comment ça marche cette prime? Pourquoi le gouvernement a choisi cette solution? On va répondre à ces questions dès le début d'Europe Midi et puis vous entendrez la réaction du patron des députés, les Républicains, Damien Abad, qui a choisi Europe 1 pour parler. Des cheminots en grève, le premier jour des départs en vacances de la Toussaint, alors que les professionnels du tourisme comptent bien travailler durant les 15 prochains jours. On sera en direct de la gare Montparnasse à Paris, et ce, alors qu'on apprend à l'instant qu'il va y avoir une amélioration du trafic TGV. C'est ce qu'annonce la direction. Toutes les informations avec notre reporter sur place. Dernier jour du procès de Karim Benzema dans l'affaire du chantage à la sextape. Les avocats du joueur demandent la relaxe de Benzema, leur client, et ils chargent Mathieu Valbuena. On sera en direct du tribunal de Versailles avec Jean-François Pérez. Comment Alec Baldwin a-t-il pu tuer accidentellement une femme sur un tournage alors qu'il croyait l'arme qu'il manipulait non chargée? On verra ça avec Élise Dangean. On achète de plus en plus de voitures hybrides électriques. On en achète même plus que des voitures diesel. C'est ce que nous dira Emmanuel Duteil dans un instant. Et puis la tendance météo avec vous, Anissa Dadi. Anissa, le temps est plus calme, hein?
Oui, cet après-midi, les averses se font de plus en plus rares et les éclaircies de plus en plus nombreuses. Romain, ce qui annonce un très joli week-end ensoleillé. Mais attention, très froid avec des températures en dessous des moyennes de saison.
Voilà, tout à l'heure Anissa pour une météo complète. Europe 1. La prime inflation de 100 euros versée à tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Si vous gagnez 1990 euros net par mois, vous la touchez. Si vous gagnez 2010 euros net par mois, vous n'y avez pas droit. Est-ce que c'est la bonne solution pour faire face à l'augmentation des prix? On vous a posé la question.
Moi qui suis conducteur, quand je fais le plein de ma voiture, il y a déjà par exemple 70 euros. Donc ce serait peut-être pour une fois, c'est pas suffisant.
C'est une super initiative, je finis tous les mois à zéro, donc un peu d'argent en plus pourrait me faire du bien, pourrait me rassurer, pour un peu plus de loisirs peut-être.
C'est bien, c'est un peu du bien quand même, 100 euros de plus, je peux payer à manger, je peux payer plein de choses avec.
C'est une bonne initiative de la part de Jean Castex pour consommer la nourriture, les éléments essentiels.
Alors, Maud Descamps avec nous, service économie d'Europe 1. Bonjour Maud.
Bonjour.
La prime n'est finalement pas liée au fait qu'on possède ou non une voiture. Il n'y a rien à faire pour la toucher?
Non, tout sera automatique. Hein. Cette somme va être directement versée sur votre compte en banque. Pour les salariés, par exemple, ce sera via votre employeur. Pour les indépendants, ce sera via les URSSAF. Sachez que c'est une prime défiscalisée. Vous ne paierez pas d'impôt dessus. Alors, le critère d'éligibilité, c'est donc de gagner moins de 2000 euros net par mois. Que vous soyez salarié, retraité, indépendant, étudiant boursier ou fiscalement autonome. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le revenu fiscal du foyer hein, qui est pris en compte, mais le revenu net de chacun. On va prendre un exemple très concret. Si vous gagnez moins de 2000 euros net par mois et que c'est également le cas de votre conjoint, alors chacun percevra 100 euros. Les premiers versements auront lieu à partir du mois de décembre et s'étaleront jusqu'en février. Ce sont les salariés qui seront les premiers servis. Et enfin, notez que certaines entreprises s'emparent également du sujet. Le patron des magasins Carrefour, par exemple, Alexandre Bompard, a annoncé qu'il doublerait cette indemnité classe moyenne pour 85 000 salariés.
Merci beaucoup Maud. C'est vrai que vaut mieux être deux à gagner moins de 2000 euros que un dans le couple qui gagne, je ne sais pas, 3800 euros net par mois. Là, exactement. On n'a pas droit à la prime. Merci beaucoup Maud. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, avant d'être avec Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée. Jacques, bonjour.
Bonjour.
On avait parlé d'un chèque carburant ou d'une baisse des taxes. Pourquoi c'est cette prime qui a finalement été choisie par le gouvernement?
Eh bien parce que la consigne fixée par Emmanuel Macron se résumait en trois mots. Lisibilité, clarté et cohérence. Et selon nos informations, tout s'est joué hier. Car il y a deux jours, mercredi, le chef de l'État et le Premier ministre déjeunaient ensemble. Et lors de ce rendez-vous à l'Élysée, en tête-à-tête, juste après le Conseil des ministres, la baisse des taxes sur les carburants a été écartée, jugée par le couple exécutif comme pas assez ciblée et trop lourde pour les finances publiques. Lors de ce déjeuner, l'idée d'un chèque carburant uniquement pour les automobilistes a également été mise de côté. Une usine à gaz trop compliquée à mettre en œuvre, rapporte un conseiller. Mercredi, le message du chef de l'État était de dire à Matignon et à Bercy de retourner travailler. Et c'est donc hier que cette indemnité inflation est sortie du chapeau. et qu'elle a eu les faveurs du palais dans la mesure où elle répond aux trois critères de la feuille de route présidentielle. Lisibilité, c'est 100 euros. Clarté, le versement est automatique via l'employeur. Cohérence, effet direct sur le pouvoir d'achat. Et quand je vous dis que tout cela a été piloté depuis l'Élysée, c'est que je peux vous affirmer qu'hier, Emmanuel Macron et Jean Castex se sont appelés à plusieurs reprises tout au long de la journée et jusqu'au dernier moment. Quelques minutes à peine avant de faire cette annonce à la télévision, le Premier ministre était au téléphone avec le président.
Merci beaucoup Jacques Serret pour toutes ces informations. Bonjour Damien Abad.
Bonjour.
Député, évidemment, Les Républicains et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. 100 euros pour aider les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois à affronter cette inflation. Est-ce que c'est la bonne solution selon vous ?
Écoutez, c'est une réponse d'urgence qui est utile pour les Français. Après, ça ne résout en rien le problème sur le fond et sur le long terme. La réalité aujourd'hui de ce chèque, c'est que le gouvernement fait des chèques cadeaux à crédit alors qu'on a un pays qui est endetté. Mais il ne répond pas à la question de fond, c'est pourquoi la hausse des prix à la pompe est aussi importante. Et c'est pour ça que nous proposions de baisser les taxes. Certes, ça a un coût, mais ça a un gros avantage, c'est que c'est une solution durable. Alors que là, on va verser un chèque de 100 euros. Et puis ensuite, eh bien, si les prix à la pompe continuent de monter, le problème sera le même pour les Français.
Mais Damien Abad, vous dites « certes, ça a un coût » et vous évacuez presque cette question. C'est pas « certes, ça a un coût », c'est « ça a évidemment un coût et un coût énorme ». Comment vous financez cette baisse des recettes de l'État ?
Non, nous, notre proposition, elle a quasiment le même coût que le chèque qui est proposé par le gouvernement. Notre proposition était de baisser de 10 centimes d'euros le prix à la pompe, ce qui représente à peu près 5 milliards d'euros.
Voilà, 5 milliards.
5 milliards, la proposition du gouvernement, elle est à 4 milliards. Je rappelle aussi quand même une autre chose, c'est que le gouvernement a capté plusieurs milliards d'euros de recettes par la hausse des taxes qu'il a décidé sur les carburants en 2018. En 2018, il a décidé d'augmenter les taxes et ça lui rapporte 4 milliards d'euros par an. Ça veut dire que depuis 2018, il y a 16 milliards d'euros qui ont été captés par le gouvernement. Donc aujourd'hui, il faut tout simplement que le gouvernement rende du pouvoir d'achat aux Français. Il choisit de le faire sous une forme de chèque cadeau d'un coup et finalement sans s'attaquer aux conséquences. Moi, je préfère ça que le chèque carburant qui était réduit uniquement sur la population la plus défavorisée. Mais je trouve que la baisse des taxes aurait été beaucoup plus utile et durable comme solution.
Oui, il y a quelque chose également dans ce qu'a dit Jean Castex hier soir, c'est que l'inflation qu'on pensait être une espèce de feu de paille, c'est-à-dire que l'économie est en train de repartir, ça crée de l'inflation, mais ça devait se calmer au début de l'année prochaine, devrait continuer. Donc, est-ce qu'il va falloir verser d'autres chèques l'année prochaine ?
C'est le problème de cette politique par les chèques. La vérité, c'est qu'on ne pourra pas s'en sortir à coup de chèques permanents et à coup de distribution de chèques à crédit. Ça, ce n'est pas une politique de long terme et ça ne pourra pas tenir. On peut acheter la paix sociale pendant quelques mois, mais on ne résout pas les problèmes des Français. Et donc, il faut s'attaquer à cette inflation. Parce que l'inflation, elle concerne les carburants, mais elle concerne aussi l'électricité, le gaz, les produits alimentaires. Et on voit bien qu'on a une inflation, et en plus, dans un contexte de dette. Et quand vous avez de l'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix, et que vous avez à côté de ça 3 000 milliards d'euros de dette, il y a un gros risque. Le gros risque, il est notamment sur les taux d'intérêt, et donc de faire augmenter le prix d'accès au logement. Et là, c'est encore plus difficile pour les Français en termes de pouvoir d'achat. Donc moi, ce que je demande au gouvernement, c'est qu'il ne peut pas faire simplement une politique de chèque permanente. Il doit s'attaquer aux problèmes de fond sur sa politique énergétique, sur sa politique tarifaire, sur la question des salaires en France, sur la question du pouvoir d'achat. Ce sont tous ces sujets qui doivent être mis sur la table. Là, honnêtement, on a surtout un sparadrap sur une jambe de bois.
Merci beaucoup Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi sur Europe 1. Merci beaucoup Damien Abad, bon après-midi. On part tout de suite à la gare Montparnasse. Le trafic des TGV Atlantique doit être réduit à cause d'une grève des cheminots. Une grève qui est moins importante que prévu. Yasmine Akatou en direct de la gare Montparnasse, dites-nous tout.
Eh bien, sur les écrans, pour l'instant, aucune annulation. Tous les trains circulent normalement. Prochain départ, Nantes et le Croisic dans une petite minute. Au total, une vingtaine de trains sont pour l'instant maintenus jusqu'à 14h. Un début de grève avec très peu de répercussions puisqu'aujourd'hui 9 TGV sur 10 circulent. Demain, 8 TGV sur 10 rouleront. C'est ce que vient d'annoncer la direction de la SNCF dans un communiqué. Et cette grève concerne les trains qui desservent la Bretagne, le sud-ouest au départ de Paris. C'est la CGT Cheminot, Sudrail et la CFDT Cheminot qui appellent à la grève. Les syndicats réclament de meilleures conditions de travail et la grève doit durer jusqu'à lundi midi.
Merci beaucoup Yasmina, en direct de la gare Montparnasse. Donc notez bien cette information qui tombe à l'instant. Ça va vous servir si vous devez prendre le train, en tout cas le TGV Atlantique ce week-end. Amélioration du trafic TGV Atlantique demain avec 8 trains sur 10 finalement en circulation. C'est une information qu'on peut vous donner dans Europe Midi. Il est 12h40, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le procès de Karim Benzema. Les avocats de la star de l'équipe de France ont demandé ce matin la relaxe de leurs clients. Ils ont été sévères avec Mathieu Valbuena. Quels sont leurs arguments? On verra ça avec Jean-François Pérez en direct du tribunal de Versailles. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h43, c'est aujourd'hui le dernier jour du procès de Karim Benzema. Les avocats de la star de l'équipe de France et de la star du Real ont demandé ce matin la relaxe de leurs clients au tribunal de Versailles. C'est évidemment l'affaire de la sextape, hein, du chantage à la sextape. Les avocats de Karim Benzema ont également chargé Mathieu Valbuena qui apparaissait sur cette sextape et qui est la victime. Jean-François Pérez, en direct du tribunal de Versailles. Bonjour Jean-François. Dites-nous déjà,
bonjour à tous,
quels sont les arguments des avocats de Benzema?
Les défenseurs de Karim Benzema avaient promis hier soir une belle empoignade, je cite, lors des plaidoiries. Ils ont tenu parole une heure et demie durant. Ils ont intégralement et parfois avec virulence démonté tout à la fois l'enquête présentée comme à charge, l'instruction du dossier manipulée, le rôle des procureurs qui n'ont cherché selon eux qu'à se montrer à la hauteur du battage médiatique qu'ils ont provoqué. Et même donc, vous le disiez, Mathieu Valbuena décrit en des termes peu flatteurs par l'avocat Sylvain Cormier. Valbuena qui n'aurait eu aucun égard pour la jeune femme présente sur la fameuse sextape, elle n'aurait même pas été mise au courant qu'elle était filmée. Alors voilà, pour tous ces arguments, pour la défense, c'est clair. Le doute sur l'implication et les véritables intentions de Benzema doit profiter à la star du Real. Benzema doit être relaxé. C'est ce qu'a dit à Europe 1 avant de quitter le tribunal, Maître Antoine Veil.
On ne peut que espérer une relaxe et véritablement je crois qu'on a essayé de démontrer les raisons pour cela.
Vous avez bon espoir?
C'est difficile avec la justice, il faut avoir espoir que les juges vont pouvoir analyser les choses objectivement et malheureusement si on n'a pas aujourd'hui gain de cause, il y aura une voie de recours. Donc voilà, je ne lis pas dans les boules de cristal mais je pense que nous avons démontré qu'il n'y a pas de quoi le condamner dans ce dossier.
Voilà Benzema qui, selon ses avocats, serait très déstabilisé par l'affaire. Vous l'avez compris, si jamais il devait y avoir confirmation de la réquisition, 10 mois de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende, la défense du joueur ferait appel de la décision. Une décision, Romain, qu'on attendait dans la journée, bien ce n'est plus tout à fait la possibilité d'une mise en délibéré, d'une décision différée, donc fait son chemin. Réponse dans l'après-midi.
Jean-François, cette affaire, elle peut ternir la carrière de Karim Benzema, en clair. Est-ce que s'il est condamné, il devra quitter l'équipe de France, voire le Real ?
Image ternie sans doute. À la Fédération française de football qu'on a appelée ce matin, la FFF qui est partie civile dans le procès, on nous dit qu'une condamnation de Karim Benzema provoquerait à minima une réflexion sur sa présence en équipe de France. Mais l'appel étant certain en cas de décision défavorable, tout cela serait gelé au moins pour quelques mois. Et puis Romain, il y a le ballon d'or. Les votes s'achèvent dimanche, Benzema fait partie des favoris et un Benzema condamné aurait moins fière allure. C'est aussi pour cela que le délibéré est espéré par les avocats du joueur, afin évidemment de gagner du temps.
Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Pérez en direct du tribunal de Versailles. La campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière, elle a débuté aujourd'hui. On est en direct avec un médecin, le docteur Jean-Louis Bensoussan. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et président du syndicat MG France, les médecins généralistes. Alors, on va faire un petit point déjà, parce que chaque année, il faut bien expliquer le vaccin contre la grippe. Et puis, cette année est un petit peu particulière. Qui doit se faire vacciner?
Alors, tout d'abord, précisant, je suis secrétaire général du syndicat, mais peu importe. Qui doit secrétaire se faire général. Vacciner? Toujours les personnes à risque, toutes les personnes de plus de 65 ans, ainsi que les personnes qui sont en affection longue durée pour des pathologies à risque, telles que des pathologies respiratoires, du diabète, et qui sont éventuellement en dessous de l'âge de 65 ans. Ça, ce sont les personnes qui sont les plus ciblées par la campagne de vaccination. Ajoutons à cela les femmes enceintes, pour lesquelles le vaccin est également recommandé.
Alors, on peut se faire vacciner contre la grippe, même si on a été récemment vacciné contre le Covid ?
Alors oui, ça a été confirmé par la Haute Autorité de Santé dans sa dernière recommandation qui dit qu'on peut associer même le même jour les deux vaccins. On reçoit donc une piqûre dans chacun des deux bras. Hein. Mais même si on a été vacciné contre la Covid il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, ça ne pose aucun problème de faire cette vaccination antigrippale dès à présent.
Alors, si on se fait vacciner contre la grippe et contre le Covid en même temps, hein, c'est ce qui est plutôt recommandé,
oui.
Est-ce qu'on augmente les risques d'effets secondaires ?
Alors, on ne les augmente pas, mais disons qu'ils ont un peu plus de chances d'être là en termes de fréquence. Mais les effets secondaires du vaccin de la grippe sont très, très, très faibles depuis les nombreuses années de recul que nous avons sur ce type de vaccin. Alors, il se peut qu'il y ait un petit peu de fièvre, un peu de frisson. Je ne pense pas que ça puisse être tellement majoré par l'association des deux vaccins le même jour.
On va chez son médecin généraliste ou on peut se faire vacciner à la pharmacie ? Qu'est-ce que vous conseillez ?
Ah ben ça c'est une question compliquée, on peut pas répondre en une seule phrase parce que tout dépend de si le médecin généraliste est approvisionné en doses de vaccin Covid, donc il pourra faire le même jour les deux vaccins. S'il n'est pas approvisionné, le vaccin Covid ne se faisant qu'en centre de vaccination, à ce moment-là, il faut aller au centre de vaccination et demander éventuellement à la personne qui vaccine contre la Covid de faire en même temps le vaccin grippe, ça c'est une possibilité, mais sinon effectivement, il faut se rendre chez son médecin traitant et essayer d'avoir les deux vaccins le même jour. Moi, c'est ce que je fais dans mon cabinet déjà depuis hier.
Merci beaucoup, docteur Bensoussan, Jean-Loup Bensoussan, secrétaire général du syndicat MG France, les médecins généralistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi. C'est un drame dont Alec Baldwin, vous savez, l'acteur américain, va avoir du mal évidemment à se remettre lors du tournage d'une scène de western dans un désert du Nouveau-Mexique. L'acteur a tué la directrice de la photographie avec une arme qu'il croit non chargé. Élise Dangean avec nous. Bonjour Élise.
Bonjour.
Dites-nous ce qui s'est passé. Déjà, on est d'accord, c'est un accident, il n'y a pas de doute.
Absolument, c'est la piste privilégiée. D'ailleurs, pour le moment, aucune poursuite n'est engagée. Alec Baldwin a été longuement interrogé par des policiers. Il s'est présenté volontairement, indique le porte-parole du shérif de Santa Fe. Selon ses services, l'incident, qui a donc coûté la vie de la directrice de la photographie du film et gravement blessé son réalisateur, aurait été causé par une arme à feu qui servait d'accessoire sur le tournage du western Rust. Alors la question c'est comment ? Et il y a un précédent, la mort de Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, sur le tournage du film The Crow en 1993. L'autopsie avait révélé que le jeune acteur avait été touché par un projectile de calibre 44, resté bloqué dans le canon et délogé par la détonation de la cartouche à blanc. Le procureur chargé de l'enquête avait à l'époque conclu à la négligence. Dans le cas présent, l'enquête se poursuit, bien évidemment. Le tournage du film a été arrêté pour une durée indéterminée. La production assure coopérer pleinement pour faire la lumière sur ce drame.
Élise Dangean, merci beaucoup Élise. Il est 12h50, vous êtes peut-être en voiture. Sachez que les ventes de voitures hybrides simples ont dépassé les ventes de diesel sur le marché européen. On va en parler dans un instant avec Emmanuel Duteil. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h52. Renault subit de plein fouet la crise des semi-conducteurs. Le français ne pourra pas produire 500 000 voitures cette année. Emmanuel Duteil, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Chef du service économie d'Europe 1. Emmanuel, ce sont autant de voitures qui ne seront pas vendues par Renault. Hein.
Oui, effectivement, et c'est un chiffre énorme. Alors, elles pourraient être vendues, mais pour ça, il faut qu'on accepte d'attendre pendant plusieurs mois de pouvoir sa voiture. Aujourd'hui, grosso modo, si vous venez chercher un véhicule moyenne gamme, que ce soit chez Renault ou chez les autres, on vous dit OK, mais vous allez attendre 6 mois. Pourquoi ? C'est toujours le même souci. C'est le souci de ce qu'on appelle les semi-conducteurs et les puces. Ce sont aujourd'hui des choses qui sont totalement indispensables à la fabrication d'une voiture. Et pourquoi ça pose problème ? Parce qu'on n'arrive pas à les produire. Il y a plusieurs raisons pour l'expliquer. La première raison, c'est que les usines automobiles et les usines des équipementiers et des fournisseurs de pièces se sont arrêtées pendant le Covid. Tous les constructeurs ont voulu la même chose au même moment. Et on en a voulu beaucoup plus que d'habitude parce qu'il y a eu une énorme demande. Pas de chance, vous avez eu en même temps plein d'usines qui sont tombées en carafe, si vous me permettez l'expression, notamment en Malaisie, mais on a eu également des problèmes au Texas. Donc tout ça fait qu'on a un problème qu'on n'arrive pas à régler. Jusque-là, on pensait que ça s'améliorerait à la fin de l'année et que ça s'améliorerait nettement au début de l'année prochaine. Ben non, là quand on regarde les chiffres de Renault et quand on regarde les annonces aujourd'hui de Renault, on se dit que c'est encore plus dur que ce qui était prévu. C'est pas un cas particulier, hein. Un tiers des ventes en moins du côté de General Motors. Vous avez également un fort recul du côté de Volkswagen. Le seul qui s'en sort pour le moment, c'est un constructeur de voitures électriques qu'on connaît de plus en plus, qui s'appelle Tesla. Lui, il a réussi le tour de force d'augmenter ses ventes sur le trimestre écoulé de plus de 20%. Je vois vos yeux, Romain. Là, vous êtes en train de vous dire, mais comment il a fait ? Alors, je vais vous citer le patron de Volkswagen qui était ce matin cité dans Les Échos. Ils disent qu'ils ont un modèle qui est très particulier, très technologique. Ils arrivent donc à revoir un petit peu le codage, à voir créer finalement de nouvelles pièces et donc à comme ça sortir un petit peu du système et à contrebalancer les difficultés actuelles.
Et il s'adapte. Le marché de la voiture hybride gagne des parts de marché. On en vend plus que des diesels en Europe, hein, Emmanuel.
Oui, alors c'est un effet ciseau. Hein. C'est parce que le diesel s'effondre qu'à côté, on est bien obligé d'acheter autre chose. Et donc, en l'occurrence de l'hybride, ça marche partout en Europe, avec notamment une poussée spectaculaire des voitures électriques, là, une fois de plus. Si on regarde, tiens, le mois de septembre en France, 13% des ventes étaient uniquement des voitures électriques. Ça accélère et ce n'est pas fini.
Emmanuel Dutheil, merci beaucoup Emmanuel. Le temps tout de suite, 12h55 avec Anissa Haddadi. Anissa, la semaine se termine dans le froid, mais sous le soleil. Hein.
Oui, j'espère que vous avez pensé à vous couvrir, hein, parce que les températures aujourd'hui sont en nette baisse et passent d'ailleurs en dessous des normales de saison. Alors cet après-midi, nous n'aurons que 12 degrés à Belfort et à Saint-Etienne, 13 à Besançon et Clermont-Ferrand, 14 degrés à Lille et Auxerre, 15 degrés pour Paris, Lorient et Limoges, 17 degrés à Bordeaux, 18 à Mont-de-Marsan, ça baisse bien, hein, 21 degrés à Nice et Nîmes et 22 degrés à Montpellier. Alors dans le ciel, les éclaircies se montrent quand même généreuses cet après-midi, un peu plus nombreuses que ce matin sur la moitié sud, après une matinée bien grise hein, entre les Pyrénées, les Alpes et l'Auvergne, eh bien là, nous avons le retour de beaux rayons de soleil. Au nord de la Seine, en revanche, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Quelques petites averses sont même possibles au bord de la Manche. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane aujourd'hui soufflent assez fort, jusqu'à 80 km/h en rafale. C'est donc une journée de transition où le ciel est pas mal partagé avant un week-end lumineux, ensoleillé, mais froid.
Voilà, du soleil, mais du froid. Merci beaucoup Anissa, 12h56. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Dutheil. Très bel après-midi sur Europe 1.